très littéraire et je trouve que c'est aussi un mot qui est très approprié à ce contexte. Vous savez certainement que shalom veut dire. Alors, je crois qu'il faudrait que quelqu'un d'entre vous mette son micro sur sourdine, comme ça il n'y a pas d'interruption dans l'audio.
Je le fais pour tout le monde et je te repasse la parole, Joseph.
Merci.
Tu peux parler maintenant, Joseph. Tu peux
Ok,
réagir, voilà.
je suis là. Ok, super. Juste une petite. On commence à tous s'habituer à la technique, nouvelle technique. Alors, je disais sur le mot shalom. Alors, vous savez certainement que shalom est ce mot qui veut dire paix, n'est-ce pas? Mais shalom est vraiment un mot de bénédiction qui veut dire bien plus que la paix. C'est un mot qui vient du mot shalem et shalem veut dire le tout ou l'intégralité, entier. Et c'est exactement ce qu'on peut se souhaiter dans ce moment de difficulté à cause de COVID-19, c'est que Dieu soit là à chaque moment, dans chaque aspect de nos vies. Jésus a dit que c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. Il dit, ce n'est pas le shalom que le monde donne. Je vous donne mon shalom. Que votre cœur, que vos cœurs ne se troublent point. L'apôtre Paul dit, c'est un shalom qui dépasse l'entendement ou la compréhension. Le prophète Ésaïe a dit, tu le garderais dans une paix parfaite. En fait, dans l'hébreu, il répète shalom deux fois pour être sûr que le message est bien connu, celui qui te fait confiance, parce qu'il te fait confiance. Alors, ce matin, c'est un plaisir de partager avec vous l'une de mes fêtes préférées parmi les fêtes que Dieu a données à l'Éternel. Alors, c'est la Pâque juive, Pessah. D'ailleurs, dans la Bible, il n'est pas question de fête juive. Si vous regardez en long et en large dans l'Ancien Testament, vous n'allez trouver aucune mention de fête juive. Vous allez retrouver des fêtes en honneur de l'Éternel. Donc, si ces fêtes célébrées par le peuple d'Israël étaient en honneur de l'Éternel autrefois, ça veut dire qu'elles vont nous amener forcément, forcément à Jésus. Donc, c'est pour ça qu'on appelle cette présentation le Messie dans la Pâque. La Maison de la Bible, d'ailleurs, a sorti un livre qui s'appelle Le Messie au cœur de la Pâque. Et c'est ça le but de notre temps ensemble, de découvrir comment Jésus est vraiment celui qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, avec Daniel, on avait discuté de ce. Alors, c'était prévu que je partage la Pâque juive avec vous au culte à Montreuil. Et par la suite, j'ai demandé à Daniel s'il voulait que je change mon message pour quelque chose de plus approprié. Et pour Daniel, il a dit que ce message est tout à fait approprié, et pour moi aussi, surtout dans les moments que l'on vive aujourd'hui. D'ailleurs, je vous rappelle le verset que Daniel a lu dans sa présidence, dans le psaume 98. Il a dit, le Seigneur a fait connaître son salut, il a dévoilé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa fidélité et de sa constance envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Alors, c'est avec un pincement de cœur que beaucoup de Juifs lisent de tels passages et disent, ah bon, Dieu s'est souvenu de sa fidélité et de sa constance envers la maison d'Israël, avec toutes les souffrances que le peuple juif vit. C'est pas possible. Eh bien, absolument, c'est possible. Et d'ailleurs, ce verset que Daniel a lu est un peu une clé de cela, parce que ça commence en disant, le Seigneur a fait connaître son salut, et ça termine avec, toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Eh bien, en hébreu, le mot salut, c'est Yeshua. Et j'imagine que vous voyez déjà ce que je vais dire. Yeshua, c'est le nom hébreu de Jésus. Donc, on peut le lire autrement. Le Seigneur a fait connaître son Jésus, et en lui a dévoilé sa justice, et encore à la fin, dans sa constance envers la maison d'Israël, toutes les extrémités de la terre ont vu le Jésus de notre Dieu. Alors, donc, on va regarder en arrière, on va porter le regard en arrière, comme nous a dit le prophète Ésaïe, il nous a demandé, Ésaïe, de regarder en arrière, en fait. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur la creux de la fosse d'où vous avez été tirés. En fait, dans des moments difficiles, il est très important de regarder en arrière. De regarder en arrière et voir comment Dieu était présent, non seulement dans nos vies, mais dans la vie du peuple d'Israël. Parce que, figurez-vous, les grands événements de la vie de ces héros bibliques, ils ne savaient pas que Dieu allait dénuer les circonstances pour donner victoire au peuple de Dieu. Mais nous le savons en regardant en arrière. Et aujourd'hui, peut-être que nous ne pouvons pas non plus discerner comment Dieu va utiliser le COVID-19 pour sa gloire et pour notre bien. Car toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime et sont appelés à son service. Donc, c'est pour ça que nous allons ce matin porter le regard en arrière au peuple juif. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le peuple juif a été confronté à des pestes, à des virus, à des plaies. Bien sûr, je ne parle pas de la choléra ou de la grippe aviaire ou de la grippe espagnole qui a frappé le monde comme COVID-19 frappe le monde aujourd'hui. Je parle bien sûr des 10 plaies d'Égypte. Parce que dans cette dernière plaie, la plaie de la mort du premier-né, ça a affecté tout le monde et ça a obligé tout Israël de rester en confinement. On ne pouvait pas sortir de nos maisons, même pas pour une balade d'un kilomètre autour de la maison. Donc, on va apprendre quelques leçons du passé. Alors, donc je vais me déplacer, et ça c'est une chose positive qui se passe, c'est que normalement c'est moi qui viens chez vous pour prêcher, mais aujourd'hui vous venez chez moi, donc c'est ici où j'étudie, où je prépare mes messages, et c'est ici que je... Alors bon, je vais vous montrer quelques... Voilà, ça c'est la photo de ma famille, quand les enfants étaient encore très jeunes. Voilà, c'est ma bibliothèque. Voilà quelques rouleaux de la Torah. C'est les rouleaux qu'on utilise à la synagogue. Ça, c'est ma femme Delphine lors du mariage, il y a bien longtemps, dans la préhistoire. Et voilà, nous, dans la... Super. Super, super. Alors, j'ai préparé plein de choses pour vous expliquer. Mais j'aimerais vous demander si vous savez dans quel livre de la Bible que nous allons regarder l'histoire de la Pâque juive. Alors, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat le livre de la Bible que vous pensez que je vais utiliser pour expliquer la Pâque juive? Juste dans le chat, vite fait, je vous attends. Je vais ouvrir le chat pour pouvoir lire ce que vous pensez. Je vais chercher mes lunettes. Oli dit Exode, est-ce que quelqu'un dit mieux? Dominique dit je ne sais pas. Exode 12, Fabrice, Exode. Ah, vous êtes tous d'accord. Ah, on suit Oli sur Exode, oh, d'accord, tout le monde est d'accord avec Oli. Oli est très populaire, vous avez raison. Alors, c'est pour ça que je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles à l'Évangile de Luc. J'espère que ça vous a fait marrer un petit peu. Parce que quand j'ouvre le Nouveau Testament, à chaque fois que j'ouvre les passages, les pages du Nouveau Testament, et à chaque fois que un juif découvre le Nouveau Testament pour la première fois, il découvre un livre profondément juif. Jésus est dans la synagogue. Il discute des lois de Shabbat, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut manger dans les lois de Kashrout. Cette discussion est une discussion souvent, et d'ailleurs même, je dirais, mieux compréhensible au sein de la culture et de la compréhension de la Torah que pour les étrangers. Donc, chaque fois que j'ouvre les pages du Nouveau Testament, je découvre un livre profondément juif et pertinent, actuel pour la communauté juive aujourd'hui. Et donc, pour découvrir la Pâque juive, on va l'ouvrir à Luc chapitre 22, verset 7, verset 8. Juste trois versets, on va lire. Verset 7, verset 8 et verset 13. Alors, 7, 8 et 13. Le jour des pains sans levain où l'on devait sacrifier la Pâque arriva, Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque pour que nous la mangions. » Donc là, je saute à verset 13. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Voilà. Donc, ces trois versets, pour chaque personne qui le lit, est rempli de sens. Et quel est le premier sens? C'est ce que les communautés juives sont en train de faire partout dans le monde aujourd'hui. Le vendredi dernier, c'était Shabbat Gadol, c'était le Shabbat qui précède Pessah. Et donc, toutes les familles juives qui célèbrent Pessah sont en train de nettoyer leur maison, de préparer la Pâque déjà depuis 6 semaines auparavant. Alors, ils préparent la Pâque en passant la maison au peigne fin en la nettoyant de fond en comble, de haut en bas. Et pourquoi est-ce qu'on la nettoie? Parce qu'on recherche toute trace de ce qu'on appelle en hébreu chametz, le levain, ou tout ce qui est levé, de la levure. On doit prendre, saisir et jeter à la poubelle les croissants, les baguettes, les céréales, certaines même le riz, tout ce qui peut potentiellement se lever doit être jeté. Et pendant ce temps-là, on ne peut plus manger nos baguettes le matin ni nos croissants le matin. Nous devons manger ceci, de la matza, du pain azim. C'est du pain strictement non levé. Pourquoi pas de levain? Eh bien, dans les Écritures, le levain est souvent symbole de péché, du péché. La levure des pharisiens, le levain des pharisiens, c'est-à-dire tout ce qui fait gonfler, tout ce qui fait dénaturer l'être humain, l'orgueil. Et donc, dans ce moment de préparation de Pâques, comme Jésus avec les disciples, et comme on verra dans un instant l'apôtre Paul, on veut au moins symboliquement briser ce cycle de péché quotidiennement en enlevant toute trace de levain ou de la levure. Bien sûr, cette tâche importante de ménage qui des fois dure jusqu'à 6 semaines avant la Pâque et bien tombe en général sur la maîtresse de la maison. Et oui, mes sœurs, c'est vous qui devez faire ce travail colossal. Mais est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans ce passage? Jésus n'a pas envoyé de femme pour préparer la Pâque, il a envoyé 2 hommes pour préparer la Pâque. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il a envoyé 2 hommes pour faire le travail d'une femme? Je vous laisse répondre parmi vous, sans partager, sans division. Je sais que Jésus, connaissant la tradition juive, il savait que c'est à l'homme, pour, non seulement en tant que chef spirituel de la maison, il doit aussi préparer toute cérémonie. Ainsi, si vous réfléchissez, ça doit être l'homme qui doit faire ce ménage pendant 6 semaines, ce nettoyage de printemps complet dans nos maisons, même aujourd'hui. Amen. Alors, je ne vous entends pas, c'est normal, mais je sens que l'enthousiasme de chez nos frères est le moins important. Mais les rabbins ont trouvé un échappatoire formidable. Ils disent, c'est vrai que c'est grâce à la femme que la maison est propre et prête pour la Pâque, mais la femme, dans sa faiblesse, dans sa fragilité féminine, a certainement laissé quelques traces de miettes, quelques traces de levain, de chametz, quelque part dans la maison. Donc, c'est à l'homme, 6 semaines plus tard, la semaine prochaine donc, mardi soir, la veille de la Pâque, l'homme va faire un contrôle, effectuer un contrôle pour voir si tout est en ordre. Et ainsi, il accomplira sa tâche d'être maître de maison et chef spirituel en nettoyant la maison de tout levain. Donc, il va prendre des outils de nettoyage intéressants. Il va prendre une plume, une cuillère en bois, simple, et une linge blanc. Et il va aller à la recherche de levain. Alors, quelques miettes quelque part dans la maison. Où peuvent être ces miettes? Elles peuvent être n'importe où, sous le canapé, derrière le frigo. Alors, il peut passer plusieurs heures à chercher le levain, mais sa femme l'aime tellement, elle est si bonne et si généreuse, qu'elle a caché les miettes de levain exactement dans l'endroit où elle les a cachées l'année dernière, et l'année d'avant. Finalement, l'homme retrouve l'emplacement des miettes cachées, et donc, avec la plume et une main ferme, il les balaye dans la cuillère en bois. Ouf, ça c'est du boulot. Donc il va prendre et la cuillère et la plume, va l'envelopper dans le linge blanc parce qu'il n'a pas le droit de toucher les miettes. Les miettes représentant quoi? Vous vous rappelez ce que c'est que les miettes représentent? Ils représentent du levain et donc le péché. Donc, on ne va pas toucher les miettes, on va l'amener dans un grand feu de joie, normalement, à la synagogue. Chacun amène, dans les communautés les plus religieuses, si vous voulez, vont amener leur petit paquet, va le jeter dans les flammes, va rentrer chez lui et va réunir sa famille autour de lui et va dire, maintenant, j'ai nettoyé ma maison de tout levain. Mais juste pour être sûr, il va rajouter une petite prière qui dit que toute trace de levain que je n'ai ni vue ni retirée soit considéré comme nul et non avenu et comme la poussière de la terre. Amen. Voilà, la maison a été nettoyée et prête pour Pâques. Alors, c'est une tradition intéressant, drôle à jouer avec la famille, les enfants. Mais l'apôtre Paul, qui connaissait bien le judaïsme, qui connaissait bien les traditions, a puisé dans cette tradition pour nous donner l'un de ses passages les plus célèbres. Donc, on va regarder ce passage, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6, 7 et 8. Il n'y a pas de quoi être fier. Donc, 1 Corinthiens 5, je répète, versets 6, 7 et 8. C'est ça. Il n'y a pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, ni avec un levain de malfaisance et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Il mentionne directement le nom de cette tradition, Bedikat Hametz, faire disparaître le vieux levain. On appelle ça comme ça dans toutes les familles juives du monde entier. Alors, est-ce que Paul est en train de nous dire qu'il nous faut prendre la plume que j'ai jetée et faire toute cette tradition? Eh bien non. Mais je crois que ce que Paul essaie de dire, il prend une allusion, une métaphore dans cette tradition de Bedikat Hametz, en disant que nos vies sont comme la maison et des miettes se cachent dans les coins et les recoins. Et il faut profiter de ce temps de Pâques, de commémoration de ce que le Seigneur a fait pour nous, pour faire sortir ces vieux levains. Alors, peut-être qu'on a, dans le confinement que nous vivons tous, on n'a peut-être pas besoin de trop chercher, parce que les crises, comme souvent c'est le cas, servent comme un genre de bouilloire. Et ça boue à la maison, d'être ensemble tout le temps avec les enfants, d'être ensemble tout le temps avec son conjoint, d'être confiné à soi-même, même seul, si on est seul confiné. Et ça fait l'effet du bouilloire, ça remonte les impuretés à la surface des choses qu'on avait cachées ou refoulées ou ignorées tout au long de l'année. Maintenant, avec le Covid-19, ça sort. Eh bien, c'est Paul dit, il ne faut pas les refouler encore, il faut justement les purger une fois pour toutes et l'amener à la croix. Ça, c'est vraiment se préparer spirituellement pour Pâques. Amener ces choses au Seigneur, au pied du Seigneur. Non pas les cacher, mais les mettre à la lumière et de manger ces fêtes avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Car si nous confessons nos péchés, frères et sœurs, il est juste et fidèle de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Voilà. Alors, ce que je suis, d'où viennent toutes ces traditions? Ces traditions viennent de ce livre qu'on appelle la Haggadah, qui est un mot araméen. D'ailleurs, la langue de la célébration pascale chez les Juifs est en araméen. Et d'ailleurs, c'est la même langue que Jésus et les disciples ont passé. Donc, on va retrouver pas mal d'équivalents et des parallèles entre ce que Jésus et les disciples ont fait en Luc chapitre 22, comme parmi d'autres évangiles, et ce qui est écrit dans la Haggadah. Alors, la Haggadah raconte toute la liturgie, c'est-à-dire l'ordre du culte, un peu comme nous ce matin, on a commencé avec un temps de partage, un chant, prière libre, la présidence de Daniel, et après la parole, et on va continuer ainsi de suite. Donc, on appelle ce mot ou cette liturgie en hébreu « seder ». Et le « seder », c'est un mot « ordre ». Et cela nous rappelle que Dieu est un Dieu d'ordre. Dans le chaos, il parle et l'ordre se crée. Depuis la création, que dans les ténèbres, la lumière fut, en Égypte pareillement. Et aujourd'hui, si on écoute sa parole, il est prêt à mettre de l'ordre dans nos vies. Alors, dans la Haggadah, dans cet ordre, l'une des choses qu'on va faire premièrement, c'est allumer les bougies. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner shel Pesach shel Yom Tov. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a commandé d'allumer les bougies de Pessah de ce jour-ci. Alors, certains juifs messianiques, quand ils allument ces bougies, changent la prière et disent « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés en Jésus le Messie, la lumière du monde. C'est normalement la femme qui allume les bougies, qui nous rappelle que la femme devait être celle qui devait amener le Messie dans le monde. Comme c'est écrit en Ésaïe, mais aussi en Genèse, « Voici, la jeune femme sera enceinte, elle enfantera un fils, lui donnera le nom Immanuel, une lumière pour allumer les nations et la gloire de mon peuple Israël. » Alors, pendant Pessah, Alors, de Dominique, petite question, est-il possible de noter sur le chat le nom du livre qui vient d'être cité pour l'explication du levain? Alors oui, alors ça c'est pas mal comme idée, si vous voulez mettre vos questions dans le chat, après peut-être je peux aussi répondre et vous l'envoyer après, ou si on a un peu de temps, on peut aussi continuer à discuter avec vos questions. Alors voici ce que beaucoup de Juifs portent pour Pessah, c'est-à-dire le blanc, on se couvre la tête comme symbole de respect devant Dieu. Le blanc est essentiel à tout ce qui est Pessah, parce que le blanc est la couleur de la royauté. Donc, il y a plein de choses qu'on fait pendant Pessah. Alors, la Haggadah, le Seder de Pessah, dure 4 à 5 heures. Alors, je sais que je n'ai pas 4 ou 5 heures. Daniel m'a dit que vous avez vos habitudes et qu'il a l'habitude de prêcher pendant 3 heures, donc je pouvais prendre jusqu'à 3 heures. Donc, j'espère que vous êtes patients ce matin. Voilà. Peut-être que je dépasserai un petit peu. Voilà. Alors, pendant ces 4h30, 5h, on va faire plein de gestes. L'un des gestes, d'une manière intéressante, c'est on va se laver les mains avec de l'eau et un linge blanc. C'est un moment traditionnel. Dans la communauté juive, on se lave régulièrement les mains dans des ablutions. D'ailleurs, on dit que les Juifs ont échappé à certaines plaies et maladies à cause de l'importance du lavage des mains régulièrement et partout dans le judaïsme. Par exemple, la peste noire qui a fortement frappé l'Europe, on dit que c'est parce que les Juifs non seulement se lavaient les mains, ils lavaient les corps et ils enterraient les corps en moins de 25 heures. C'est ce que la loi juive exige. Donc, il n'y avait pas d'éveillé, il n'y avait pas de contact avec le corps. C'était strictement interdit. Et c'est ça ce qui a permis aux Juifs d'épargner de cette peste en particulier parmi d'autres. Alors aujourd'hui, bien sûr, le passage que Daniel a lu est très, très juste par rapport au judaïsme. Les hommes et les femmes ne se touchent pas. Il y a un sens d'impureté quand il s'agit du sang. Et cette impureté peut-être se vit, mais on n'utilise pas le mot impureté aujourd'hui. On utilise les mots hygiénique et non hygiénique. Dans la Bible, la langue de l'hygiène, c'est la pureté et l'impureté. Alors, pendant ces 4 ou 5 heures, parmi toutes les choses, et je n'ai pas le temps de vous montrer tous les faits et gestes, on va boire de la coupe de la vigne 4 fois. Premièrement, avec la coupe de Kiddush. Deuxièmement, avec la coupe des plaies. Troisièmement, avec la coupe de rédemption. Mais cette coupe est prise seulement après le repas. Le repas vient au milieu, entre les premières deux coupes et les dernières coupes, et on finit avec la coupe de Hallel, qui est la quatrième coupe, la coupe de le louange. Ah, merci, Dani. Dani, si tu veux, dès que je dis un mot en hébreu, sens-toi libre de le taper. Tu vois, comme ça, on économise le temps. C'est super de travailler avec toi. Alors, on commence avec une petite prière en hébreu. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam bore peri hagefen. Amen. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de la vigne. Alors, ainsi, Pessah a commencé. Et avec tous ces changements dans la maison, les enfants sont curieux, ils sont vraiment partie essentielle de la Pâque juive. On ne les encourage pas à rester silencieux. D'ailleurs, on les secoue pour qu'ils interagissent avec nous et qu'ils posent des questions. 4 questions traditionnelles sont posées par les enfants qui sont dans la Haggadah. Alors, je vais essayer de trouver ces questions-là pour pouvoir vous les lire. Peut-être ça ira mieux avec les lunettes, plus vite. Voilà. Manishtana laila zemikol halelot shebechol halelot anu achlin chametu matza alaila zekulo matza. Alors, il y a 4 questions traditionnelles qui sont lues pendant la soirée de la Haggadah. Et la première question, Manishtana Halayla Hazeh Mikol Halelot, pourquoi cette nuit est-elle si différente de toutes les autres nuits? Alors, chaque adulte qui est à table est obligé de répondre, c'est à cause de ce que le Seigneur a fait pour moi. Quand il m'a délivré de l'Égypte, quand il m'a racheté avec son bras droit puissamment étendu vers moi. La rédemption prise au sens personnel, c'est le je, c'est le moi. Il m'a délivré, il n'a pas délivré nos ancêtres, il nous a délivré nous de l'Égypte. Le salut est au cœur de la Pâque. La Pâque rappelle que nous devions prendre un agneau d'un an sans tache, le sacrifier, le rôtir en entier sans briser aucun de ses os et ensuite appliquer le sang sur les portes de nos maisons d'une manière très spécifique, premièrement en haut et ensuite sur les côtés, sur les linteaux. Et parce que les Juifs ont eu foi dans ce commandement divin et parce que Dieu était fidèle à sa promesse que celui qui met le sang de l'agneau sera épargné de cette plaie, tout si vous restez confinés, l'ange de la mort est passée par-dessus nos maisons. Pessah, et ce mot qui veut dire passer par-dessus vient de l'infinitif lissor, c'est-à-dire littéralement se déplacer et éviter une chose. Et donc, voici ce que cette imagerie de ces premiers agneaux pascals qui dépeignent d'une manière prophétique, imagé, poétique, d'un salut, d'une rédemption plus fort encore de venir, parce que tout comme ces premiers agneaux n'ont eu aucun de leurs os brisés, Jésus sur la croix n'a eu aucun de ses os brisés. Et tout comme les Israélites ont mis le sang sur les linteaux de nos portes en Égypte, il nous faut à chacun de nous de mettre le sang de Jésus, notre Messie, sur les linteaux de nos cœurs. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un veut, il peut m'ouvrir, rentrer et quoi? Souper, partager un repas avec moi. Et ce repas de Pessah est déjà prêt. Alors, il y a plein de choses à table que nous avons et que je vais vous expliquer, notamment le plateau du Seder. Alors, attendez. Non, la première chose que je vais vous montrer, c'est celui-ci. C'est une pochette de matzah. À l'intérieur, il y a trois morceaux de matzah, comme celui-ci que je vous ai déjà montré. Donc, je vais sortir la matzah du milieu, normalement. D'ailleurs, j'en ai plein de types de matzah différentes que j'aimerais vous montrer, parce que puisqu'on mange la matzah toute la semaine, pendant 8 jours, les Juifs ont développé tout genre de matzah. Donc, il y a un matzah normal, celui-ci, pas azim. Après, il y a le matzah avec des œufs. Tu vois, c'est plus goûteux. Il y a même du matzah sans gluten. Alors ça, c'est pour ma femme Delphine. Et il y a même des matzot avec... il y a aussi des matzot avec de l'ail et de l'oignon. Et ça, c'est mon matzah préféré. Mais je n'ai pas acheté cette année parce qu'on est confiné et ma femme n'a pas dû s'échapper. Donc, j'ai décidé de l'épargner, le matzah ail et oignon. Alors, voilà. Donc, c'est cette matzah du milieu qui est sortie de la pochette. Alors, je vous rappelle, il y a trois niveaux séparés les uns des autres par un tissu. Je vais sortir la matzah du milieu. Je vais réciter une petite bénédiction et après, je vais le briser en deux. Matzah brisé en deux. Et après, mis dans une pochette blanche ou colorée, décorée. Et le mot écrit, c'est Afikoman. Alors, Dani, si tu veux bien écrire Afikoman, ce serait super. Alors, l'Afikoman est un mot à l'origine douteuse. On n'est pas sûr de quoi, d'où ça vient. La plupart disent que c'est une influence grecque. Certains disent que ça veut dire ce qui vient plus tard. D'ailleurs, c'est la position de l'Afikoman. On mange comme un dessert à la fin du repas. Ce n'est pas sucré, c'est juste du pain brisé en deux, mais c'est l'image ici de ce mystérieux 3 en 1. On sort la matzah du milieu, il est brisé, mis dans un enveloppe blanc, caché, puis ramené à table. Et on va discuter de cette symbolique dans un instant. Alors, les autres choses. Alors oui, une question que l'enfant pose, Pourquoi mangeons-nous des pains asim? Nous répondons, nos ancêtres, dans leur hâte de quitter l'Égypte, n'ont pas pris le temps pour faire lever la pâte. Alors, l'aspect de témoignage est très important dans ces questions que les enfants posent. Alors ici, j'ai un plateau de matza, un plateau du céder. Et à l'intérieur, vous voyez qu'il y a une petite trace, il y a ici une autre à l'intérieur, je vais le rapprocher pour que vous puissiez voir. C'est écrit Pessah en hébreu. Et après, vous avez différents noms pour les différents aliments ou mets traditionnels que nous allons manger pour Pessah. Alors, ces mets traditionnels nous rappellent l'expérience de l'Exode, c'est-à-dire les herbes amères. Je vais tout expliquer. Et je vais commencer avec celui-ci qui, normalement, pose sur l'assiette comme ça. C'est le persil, ou en hébreu carpas, c'est souvent la romaine, la laitue utilisée. Dans les milieux ashkénazes, ils utilisent un brin de persil. Il prend un brin de persil et après, ils vont le tremper dans de l'eau salée qui représente les larmes de la vie. Ainsi, en trempant le persil, que par sa couleur bien verte représente la vie, nous nous rappelons qu'une vie sans rédemption est une vie noyée de larmes. Aussi, pendant Pessah, on mange des herbes amères, un oignon, du radis noir ou, dans ce cas précis, du réfor. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le réfor. Si vous êtes alsacien, vous connaissez certainement. Alors, c'est un mélange du radis noir, la racine, en fait, du radis, qui est écrasé, empuré, pimenté. Et normalement, ça devient ce genre de pâte blanche qu'on doit manger une bouchée pleine, une cuillère de réfor. Et je ne vais pas faire, la démonstration, parce que si je mangeais une cuillère pleine de réfor, je ne pourrais pas finir le culte avec vous, c'est clair. Donc voilà, je vais le ranger pour Pessah. Aussi, nous avons parmi tous les éléments le betza ou la chagiga. Ceci n'est pas un œuf de Pâques. C'est le mot chagiga qui est donné. C'est un sacrifice supplémentaire qui se faisait à l'époque du temple. Alors, le temple en 70 fut détruit par les légions romaines sous le général Titus. Il a été brûlé par le feu. Donc, normalement, l'œuf est rôti pour nous souvenir, nous rappeler les sacrifices qui ne peuvent plus être offerts à cause de la destruction du temple en l'an 70. Alors, ce qui est intéressant, j'étais en train d'expliquer ça à Vaux-sur-Seine. Alors, pour ceux qui connaissent la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, et j'expliquais que la Chagiga, on apprend tous depuis tout petit que c'était un autre sacrifice d'agneau aussi, mais qui était fêté dans le temple à l'époque de Jésus. Alors, les profs et les théologiens, quand j'ai commencé à dire ça, ont commencé à chuchoter entre eux. Pour ceux qui connaissent Jacques Buchol et Henri Blocher, ils étaient tous là, ils étaient un peu surpris de ça, parce qu'en fait, toute cette semaine, ils essayaient de réconcilier le passage dans l'Évangile où Jésus est amené devant le sacrificateur. Il ne peut pas rester très longtemps parce qu'il doit aller sacrifier l'agneau. Alors, le sacrifice de l'agneau en question, c'était justement la chagiga, pas l'agneau qu'ils avaient déjà mangé à table auparavant. Donc, juste la chronologie, c'est un moment intéressant qui illustre encore qu'en comprenant la tradition et la culture et les lois juives, on peut des fois comprendre d'autres choses dans le Nouveau Testament ou encore plus profond. Voilà. Alors, l'œuf, d'ailleurs, il est partagé à table et on le trempe dans l'eau salée. Alors, est-ce que vous vous souvenez ce que représente l'eau salée? Les larmes de la vie. Encore, l'idée, c'est de se souvenir de nos souffrances avec des larmes. Ici, nous avons le zroa. Zroa, c'est la pâte d'os de l'agneau. Alors, zroa, c'est la pâte d'os de l'agneau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Bible ou la Torah commande que les familles juives mangent l'agneau tout entier et qu'il ne reste aucune trace de cet agneau du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ça. Les familles juives ne font plus du tout ça. Peu importe si les familles juives sont en Afrique du Sud, à Jérusalem, à New York, en France, on ne fait plus ce que la Torah commande, de prendre un agneau chez soi et de le rôtir et sans briser aucun de ses os et le manger tout entier du jour au lendemain. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les familles juives dans le monde entier ne font plus cette, cet acte de l'agneau pascal? Eh bien, c'est clair, c'est pour la même raison que j'ai donné pour la Chagiga, parce qu'il n'y a plus de temple. Sans temple, on n'a plus de sacrifice de l'agneau pascal. Alors, ça relève une question importante. Pourquoi donc est-ce que le judaïsme peut offrir le pardon des péchés de nos jours? Eh bien, la réponse se trouve encore dans l'Évangile. Quand Jean le Baptiste était sur la rive du Jourdain, il a vu son cousin de loin, Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Quand il a dit ça, c'est les gens qui l'écoutaient entendaient Pessah, celui qui nous a sauvés de la mort, de la dernière plaie. Voici la réponse, pas à travers une multitude de sacrifices qui ne peuvent plus être offerts, mais par le sacrifice d'un seul, Jésus, l'agneau pascal. Alors, après, on prend la deuxième coupe. Alors, les coupes viennent en différentes tailles, différentes manières. Donc, on va prendre la deuxième coupe. La deuxième coupe, c'est la coupe des plaies. Et normalement, on doit remplir chaque coupe jusqu'au bord. Et des fois que il faut le remplir jusqu'à ce qu'il déborde. Parce que ma coupe déborde de joie. Et donc, mais pour cette coupe, on enlève plusieurs gouttes en souvenir des plaies qui ont frappé les Égyptiens. C'est pour ça qu'on l'appelle la coupe des plaies. Et on met une goutte sur l'assiette pour chaque plaie qu'on fait. C'est une manière mnémotechnique pour jouer avec les enfants, leur apprendre les plaies. La coupe dit que notre cœur n'est pas rempli de joie ou notre cœur ne déborde plus de joie. Nous nous souvenons que le prix de notre liberté a été racheté au terrible prix des souffrances des Égyptiens. On se souvient encore du temple qui fut détruit, on se souvient encore des souffrances du peuple juif, et donc c'est un moment de sobriété à table qui nous rappelle la rencontre entre Moïse et Pharaon. À plusieurs reprises, par la bouche de Moïse, Pharaon a entendu la parole de Dieu et son cœur fut endurci. Dieu lui a dit « Laisse aller mon peuple ». Il a dit « Non, je ne veux pas, je refuse ». Et à cause de la dureté de son cœur, face à ses plaies, face à ces choses qui ont changé le monde pour l'Égypte à tout jamais, le peuple égyptien fut détruit, cette première puissance, cette première civilisation de l'Antiquité. Et le fils même du Pharaon est décédé à cause de la dureté de son cœur. Et pour nous aussi, c'est un moment aussi, et c'est quelque chose que les prophètes ont répété à travers l'Ancien Testament, et c'est encore juste pour nous aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais la Pâque, c'est aussi, malgré ce point fort de sobriété, c'est un moment de joie. C'est un moment, un repas familial très important. La famille vient de loin et de près, des cousins, des cousines, des oncles et des tantes, un peu comme Noël chez les chrétiens. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'ai fêté Pessah chez moi, on était 30 à table, ce qui est difficile, on était un peu resserrés. Mais voilà, et donc c'est une fête de joie. Donc c'est après la deuxième coupe que l'on mange ce repas glorieux. Alors, on ne va pas s'arrêter là pour faire un repas, mais j'aimerais m'arrêter là pour expliquer un petit peu juif pour Jésus. Qu'est-ce que c'est que juif pour Jésus? Nous sommes des juifs convaincus que Jésus est le Messie. Et notre désir, c'est de partager cette bonne nouvelle avec tout le monde qui veut l'entendre. Alors, il y a plein de choses. Si j'avais préparé pour l'Église un PowerPoint à vous montrer de ce que nous avons fait à Paris, à Jérusalem, et les derniers encouragements qui sont très, très encourageants, les dernières nouvelles. Mais je ne peux pas vous montrer tout ça actuellement. Mais j'aimerais vous dire comment est-ce qu'on peut accomplir notre mission de toucher le peuple juif sans pouvoir aller au contact du peuple juif. Eh bien, il y a plusieurs manières. Et l'une des manières, c'était par YouTube. Alors, on s'est mis sur YouTube. Alors, je colle le lien YouTube, là, dans le chat, comme ça, vous pouvez aussi le copier-coller et le regarder plus tard. Et on a mis sur le lien YouTube des choses pour servir la communauté juive et nos amis chrétiens. Donc, j'ai commencé une série de méditations à la base du repas de Pâques qui s'appelle « Se préparer spirituellement pour Pâques ». Et vous pouvez regarder les vidéos qui sont passées. J'aurai encore une autre vidéo que je vais faire en live comme celui-ci à 18h aujourd'hui. Mais aussi, on a rajouté une séance fit et foi. C'est mon collègue Lionel qui est pasteur, mais aussi avant d'être missionnaire avec Juifs pour Jésus, il était instructeur de fitness. Donc, il a mis en place 30 minutes de ce qu'il appelle Fit et Foi. Il accueille tout le monde avec des salutations en hébreu et après, il donne le verset du jour qu'ils vont méditer à plusieurs reprises pendant la séance de fitness. Et après, c'est une vraie et sérieuse séance de fitness qui termine encore avec ce temps spirituel en disant, il dit, j'espère que vous resterez en forme et physiquement et spirituellement. Et je vois que notre chaîne YouTube, qu'on n'utilisait quasiment pas auparavant, aujourd'hui a gonflé à presque 500 abonnés dans l'espace d'une semaine. On a eu presque 5000 vues depuis le confinement. Alors, je peux vous admettre, même si on est très encouragé par les contacts de Juifs pour Jésus, dans aucune semaine de l'année, on a eu 5000 contacts. Donc là, on était très, très encouragés. Et j'espère que vous pouvez aussi suivre une autre chose qu'on a pu faire d'une manière très simple et à notre échelle. Pessah arrive à grands pas. Et pour les Juifs, c'est très difficile et certaines personnes dans la communauté juive sont très vulnérables. Donc, ils ne pouvaient pas se procurer des pains sans levain, des matzot. Alors, pour ces contacts juifs que je connais, qui sont encore dans le mode traditionnel et qui ne connaissent pas encore le Seigneur, j'ai tout simplement suis allé faire des courses pour eux, pour leur acheter des matzot, des pains azim, pour qu'ils puissent célébrer Pessah ensemble. Et on va faire un zoom, comme celui-ci, avec la concurrence de la synagogue de la rue Copernic, que certains d'entre vous connaissent. Et c'est un zoom, et ils m'ont dit, Josué, on compte sur toi pour nous aider à diriger ce temps de repas de Pâques ensemble. Donc, c'est la troisième fois maintenant que cette communauté libérale, d'ailleurs...
Ce n'est pas la concurrence, hein.
La collaboration.
Collaboration.
Ah oui, la collaboration. Merci, Daniel. Merci, Dani. D'ailleurs, Dani, tu et me corrige souvent parce que j'écris des articles pour notre lettre de nouvelles. Mais voilà, je n'ai pas pu t'envoyer un doc word, Dani, pour que tu me corriges. Alors, ça, c'est... Alors, j'ai plein d'autres bonnes nouvelles à vous raconter et j'espère que vous voulez tous. Alors, si j'étais venu à l'église, je serais en train de distribuer des cartes de contact pour ceux qui veulent s'inscrire à notre lettre de nouvelles. Nous avons une lettre de nouvelles que nous envoyons mensuellement, soit par mail, soit par la poste. Et je viens de mettre le lien dans le chat. Vous n'avez qu'à cliquer dans le chat. Et j'aimerais bien que vous puissiez tous recevoir notre lettre de nouvelles. Alors, bien sûr, on a des besoins comme tout le monde financièrement, mais surtout spirituellement. Les Juifs viendront au Seigneur si l'Église croit dans la mission parmi les Juifs, si l'Église prie pour la mission parmi les Juifs, mais aussi dans la lettre de nouvelles, vous allez entendre les nouvelles encourageantes que je n'ai pas tout le temps à vous raconter, mais aussi vous allez découvrir les racines juives de la foi chrétienne par les articles qu'on écrit, on enseigne régulièrement sur des choses du Nouveau Testament, du judaïsme qui peuvent éclairer notre lecture de la Bible et en particulier le Nouveau Testament. Donc, dans cette lettre de nouvelles, vous allez entendre les témoignages aussi des personnes juives qui sont venus au Seigneur, comme Joël Genoun, qui était avec nous au tout début. Il nous a salués de la Nouvelle-Calédonie et Nouméa. La première fois que j'ai rencontré Joël Genoun, il était prof de physique à l'école, au lycée, à Saint-Mandé, je crois. Et il est venu au bureau parce qu'il avait cherché sur Internet « Juif pour Jésus ». Et il ne savait pas qu'il y avait des Juifs qui croyaient en Jésus. Et Joël était très intrigué, donc il venait au bureau régulièrement. Et quand il a donné sa vie au Seigneur, j'espérais qu'il se joigne à mon église. Mon église à l'époque, c'était l'Avenue du Maine. Mais j'ai été déçu qu'il choisisse l'église de la Nation. Non, je plaisante. J'étais très content qu'il choisisse. Lycée Hector Berlioz, oui. Alors, Joël est en Nouvelle-Calédonie. Il est ancien dans son église à Nouméa. Là, vous pouvez prier pour Joël. La femme de Joël n'est pas chrétienne. Ils se sont rencontrés avant qu'ils ne viennent au Seigneur. Et pour lui, de vivre la foi dans la maison peut être compliqué des fois, et surtout avec le confinement. Donc, merci de prier pour notre frère Joël qui continue fidèle au Seigneur. D'ailleurs, il ne pouvait pas rester avec nous parce qu'il avait une conversation planifiée avec sa mère. Je l'ai eue ce matin et je n'ai pas pensé à l'inviter auparavant. Sa mère, Sylviane Genoun, qui est poète et auteur, habite dans le Paris 12e. Et je visite Sylviane régulièrement pour étudier la Bible avec elle. Donc, voilà pour les nouvelles de Juifs pour Jésus. Si vous voulez soutenir notre mission, je serai très reconnaissant. Nous avons besoin de vos dons. Il y a deux manières de pouvoir donner à Juifs pour Jésus, même trois manières. je vais mettre les deux, vous pouvez faire par deux différents billets que je viens de mettre dans le chat. Et dans le chat, vous pouvez soit donner par un RIB qui apparaît dans le chat ou par votre carte bancaire. Mais aussi, si vous préférez donner par l'église de Nation Montreuil, vous pouvez envoyer votre don, bien sûr, à l'église. Et Daniel Pegon, étant notre président, j'espère qu'il a notre RIB. J'espère que tu as notre RIB, Daniel. On n'a pas entendu ta part depuis un moment, donc voilà. Okay. Si tu as notre RIB, Daniel, prouve-le. Envoie-nous un don. Voilà, c'est une blague. Alors, le repas est fini. Et maintenant, on va reprendre notre temps de Pessah ensemble. Est-ce que vous vous rappelez à quelle coupe sommes-nous? On a dit qu'il y avait quatre coupes à prendre. On a pris la première coupe, le Kiddush, la sanctification. Dani, si tu veux mettre le nom de cette coupe dans le chat. Deuxième coupe, la coupe des plaies qu'on vient de prendre. Et la troisième coupe, après le repas, c'est en hébreu « Kos Yeshuot ». Alors, au tout début de notre temps ensemble, je vous ai dit quel est le nom de Jésus en hébreu. Vous vous rappelez, vous le saviez certainement avant, « Yeshua ». Donc, cette coupe « Kos Yeshuot » ou la coupe de délivrance vient du psaume 116. « Je soulèverai la coupe des délivrances ou du salut ». Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Donc, cette coupe porte le nom de Jésus et c'est la coupe prise après le repas. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Sauf que j'ai oublié de faire quelque chose. Vous voyez, je suis chez moi et je n'ai pas mes repères. Donc, je ne me souviens pas. Alors, oui, c'était quelque chose que j'ai sorti d'ici. En principe, la deuxième compartiment, je vous l'ai montré, je l'ai brisé, je l'ai mis dans un lin blanc et après, je l'ai caché, vous vous rappelez de quoi il s'agit? Et maintenant, je dois le ramener à table. C'est l'afikoman, ce qui vient plus tard. Alors, tous les enfants vont chercher l'afikoman, ils vont sortir un afikoman, un morceau d'afikoman, ils vont le briser. Ils vont partager à table un morceau d'afikoman de la taille d'un olive, toute petite. Et l'afikoman est pris ensemble maintenant avec la coupe de salut, la coupe de Jésus. Cela vous est-il familier? Et bien sûr, c'est de là que vient notre tradition de Pâques et la coupe et le vin qu'on doit partager ensemble prochainement, mais on ne pourra pas le faire ensemble de vive voix. Mais je crois que vous avez déjà été interrogé comme moi sur ce mystérieux 3 en 1, que pourquoi ces 3 font 1, pourquoi la matza du milieu est retirée, que et les autres restent cachés de la vue. Eh bien, les rabbins disent que c'est Abraham, Isaac et Jacob. Mais si c'est Abraham, Isaac et Jacob, pourquoi donc est-ce que la matza du milieu est-elle retirée, brisée, mise dans un lin blanc, puis ramenée à table? Et d'autres rabbins ont d'autres explications. Certains disent que c'est les Lévites, les prêtres et le reste d'Israël, la séparation ou la manière que la société est structurée dans l'Antiquité. Mais encore, la question, c'est si la matza du milieu est-elle brisée, cachée et ramenée à table, ça n'a pas de sens avec ce symbolisme-là. Et vous savez où je vais avec ça. Vous comprenez mon raisonnement. Les 3 forment un comme un mot hébreu, echad, cette forme d'unité. Il y a plusieurs manières d'expliquer echad, mais echad veut dire cette unité faite de plusieurs éléments. Quand les tribus d'Israël se réunissaient ensemble, ils étaient tous ensemble, les 12 tribus, les milliers des Israélites, comme un seul peuple, Am Echad. Quand c'est écrit en Genèse que Adam et Ève sont devenus un, c'est écrit, l'homme quittera sa famille, se joindra à une femme, et les deux deviendront qu'une seule chair. Encore en hébreu, basar echad, c'est-à-dire une seule chair. Donc un, mais pas un
indivisible, un fait de plusieurs éléments. Et c'est le même mot que Moïse utilise quand il dit « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad ». Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Echad, ce mot qui veut dire un. Alors je crois, bien sûr, que les comportements de Matzah portent témoignage d'un seul Dieu révélé en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que la matzah du milieu a été sortie, révélée, brisée, mise dans un lin blanc et cachée à table? Eh bien, parce que Jésus est la parole qui a été faite chair. Et sa chair a été meurtrie, brisée, mise dans un lin blanc, puis ramenée à table. Les rabbins donnent des règles pour que la matzah soit cachère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cachère? Cachère veut dire qu'elle est... Kasher veut dire qu'elle est convenable pour la soirée de Pessah. Premièrement, la matzah doit être striée, mise en lanière ou marquée, comme vous voyez qu'elle est marquée. Cela nous rappelle les meurtrissures dont parle Esaïe. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais aussi, chaque matzah doit avoir des trous. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir les trous. Oui, là, vous pouvez voir à travers mon vêtement blanc qu'il y a des trous. Cela me rappelle aussi, et ça, c'est une règle rabbinique, cela me rappelle aussi que le prophète Zacharie dit, ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Mais n'oublions pas le symbolisme de la matzah premier, c'est que c'est du pain strictement non levé, c'est-à-dire le symbole d'une nature strictement sans péché. Jésus a pris cet afikoman et il a dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. La quatrième coupe, la coupe de Hallel, la coupe de louange. Alors, ça, c'est un mot hébreu que vous connaissez certainement. Hallelujah, la coupe de louange. C'est un moment où on clôt la fin de notre seder ensemble. Mais Hallel, c'est aussi un chant qui est chanté. C'est du psaume 113 au psaume 118. Et si vous vous rappelez, dans l'Évangile, Jésus et les disciples ont chanté un hymne avant d'aller au jardin de Gethsémané, eh bien, cet hymne, c'est le grand Hallel. C'est du psaume 113 au psaume 118. Mais il y a une cinquième coupe et une place dont personne ne touche, un couvert séparé et mis à part pour Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. C'est un moment où on va à la porte, on l'ouvre en grand, espérant y voir le prophète Élie. C'est encore un jeu qu'on fait avec les enfants. Et on espère qu'ils viennent s'asseoir et annoncent la venue de Eliyahu Hanavi, Élie le prophète. Et un chant que tout le monde chante pour la fin de ce seder, c'est Eliyahu Hanavi, Élie le prophète de Tishbé, de Gilead, vient bientôt et dans nos jours et amène celui qui s'appelle le fils de David, le Messie fils de David. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agiladi, Bimhera V'yamenu, Yavo Elenu. Im Mashiach ben David, Im Mashiach ben David, Eliyahu Hanavi. Élie le prophète. Alors, à la fin de ce repas, quand on voit que la place reste vide, que le Messie n'est pas venu, en réfléchissant au passé de souffrance dans le peuple juif, on dit ensemble le Shana Haba à Yerushalayim, l'an prochain à Jérusalem. Peut-être que cette année-ci, le Seigneur n'a pas accompli ses promesses envers nous, peut-être l'année prochaine, le Shana Haba à Yerushalayim. Eh bien, frères et sœurs, vous et moi, on est d'accord pour dire que Dieu a accompli ses promesses et sa constance envers la maison d'Israël dans la personne de Jésus. On ne dit plus le Shana Haba à Yerushalayim, on dit Maranatha, l'Éternel vient. C'est une assurance, c'est une certitude. Ses promesses envers nous sont oui et Amen. Cela fut un plaisir de partager ces moments de repas de Pessah ensemble. Et merci de m'avoir permis de me joindre à vous pour le culte. Et je vois qu'il y a juste quelques petites questions. La deuxième coupe, c'est la coupe des plaies. Et la troisième coupe, c'est la coupe Kos Yeshuot. Et encore, elle a dit Echad. Merci, Dani, d'avoir partagé les mots en hébreu pour moi. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.
Merci, Josué.